rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. J'ai rencontré Olivier Liron et il a bien voulu me parler de son premier récit, Danse d'Atome d'Or. Alors, bah, écoute, Olivier, je te remercie vraiment beaucoup de répondre à mes questions. Je voulais d'abord commencer par te parler de Danse d'Atome d'Or parce qu'en fait, je suis très contente, moi, personnellement, qui sorte en poche. Et en plus, je trouve ça super chouette parce que j'ai l'impression que, un petit peu comme le personnage féminin, mais aussi masculin d'une certaine manière, il revient des limbes. Est-ce que je me trompe? S'il n'était pas encore sorti en poche.
Oui, merci Sandrine. Ben, il est sorti en folio, en poche. C'est un livre auquel je tiens beaucoup et donc je suis content qu'il puisse continuer, voilà, exister. Très belle édition en folio, en poche. Ouais, ça fait. C'est toujours beau que les livres continuent à être lus, surtout, quoi, que les gens puissent le lire, continuer à le lire. C'est super.
Oui, c'est très chouette, surtout, c'est quand même assez longtemps après. En général, c'est un an, là, c'est plus long.
Oui, bah oui, c'est un premier roman. Donc c'est Folio qui avait sorti le livre de neige. Et puis ils ont sorti aussi du coup, ce premier roman voilà, que j'aime beaucoup, donc que je tiens beaucoup. C'est super.
Ouais, c'est vraiment super. Moi, je l'ai lu cette histoire après Einstein, le sexe et moi, parce que c'est comme ça que je t'ai connue, en fait. J'ai été en fait très touchée par cette histoire parce que je trouve que c'est, et tu le dis, tu l'écris à la fin, c'est que tu réussis à transformer une histoire d'amour, mais pour moi, c'est surtout une histoire de perte. Et bah, une histoire de mort, hein, voilà. C'est aussi une histoire d'écriture. Et tu dis à la fin que l'écriture, ça permet de répondre à la violence. Mais j'ai l'impression qu'au fond, un peu comme Baudelaire, tu la transformes en beauté. Est-ce que je me trompe là-dessus?
C'est gentil. Oui, je crois que l'émotion qui a présidé un petit peu à ce premier roman, donc dans le premier roman, on met toujours un peu tout ce qu'on est. Et donc, c'est forcément dans le premier roman, il y a beaucoup de nos, je dirais, nos émotions et voilà, nos sensations, de ce qui nous constitue. Donc je suis d'autant plus touché, quoi, que ce livre voilà, existe et puis enfin, je veux dire, soit, voilà, continue à être lu. Non, oui, c'est un roman auquel je tiens beaucoup. Et alors, c'est vrai que l'histoire, effectivement, est construite autour d'un deuil amoureux, on pourrait dire, d'un deuil amoureux, d'une perte, et comment est-ce que on survit à l'absence de quelqu'un, en racontant aussi, bien sûr, la dimension, je dirais, la plénitude aussi de cet amour et de ce désir, mais surtout l'expérience de l'absence, de la perte. Ouais. Ça, c'est vrai que ça a guidé, bien sûr, l'écriture du livre, et inventé une forme, effectivement, de décrire cette perte, alors avec cette métaphore ou cet horizon que serait la danse, comme une forme peut-être de métaphore de cette écriture-là, qui aurait une dimension presque physique ou rythmique, esthétique, propre à la danse. Donc, et là, vraiment, l'enjeu, c'était dans une tradition, bien sûr, aussi. Sans doute de livres et de textes que j'aime, qui m'ont nourri aussi, quoi. C'est comment est-ce qu'on raconte le chagrin, l'absence, l'élégie. Donc il y a une dimension à la fois, oui, il y a une dimension, je dirais, élégiaque ou romantique dans ce sens-là, mais il y a aussi, je pense, une volonté de rendre par l'écriture une manière de retrouver une manière de aussi de joie, de légèreté à l'intérieur de cette douleur-là. Donc, c'était intéressant à écrire parce que il y avait vraiment cet équilibre à trouver entre la vérité de l'émotion et trouver une manière légère de dire la tristesse, enfin, trouver une manière joyeuse d'être triste, quelque chose comme ça. Donc, l'équilibre du livre, c'était un peu être sur cette crête entre la douleur du deuil, de l'absence et la joie et la légèreté du souvenir, la joie du sentiment amoureux. Et donc, c'était un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire. Et souvent, les retours sur ce livre ont été extrêmement forts, extrêmement denses, extrêmement beaux, quoi. C'est un livre sur lequel j'ai eu énormément de retours très forts, quoi. Et donc, je suis vraiment content qu'il continue à, voilà, à faire, voilà, à vivre, quoi, à rencontrer ses lecteurs, comme on dit, ses lectrices.
Oui, et en fait, il y a aussi une chose qui est vraiment chouette, je trouve, c'est que c'est celui qui se présente le plus comme étant loin du réel, et en même temps, on est très touché en le lisant, et on a l'impression que c'est le plus ton écrit le plus intime, en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi.
Oui, on a tendance un petit peu à vouloir partitionner les textes, les livres entre ce qui relèverait purement de la fiction et ce qui relèverait purement disons, de l'autobiographie, avec une forme aussi ou un genre de l'autofiction qui situerait un peu à l'intersection. Bon, après ça, c'est des catégories qui sont pas du tout, enfin, qui servent de repères, hein, qui sont pertinentes. Mais c'est vrai que souvent, quand on écrit, on est dans quelque chose, en tout cas moi, je crois que je vise quand même plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la fiction, de l'imagination, de la poésie. Alors c'est vrai que certains textes, enfin en tout cas les deux romans qui ont suivi, Einstein, Sexe et moi et Livre de neige, ont une dimension peut-être un peu plus, une assise, un petit peu plus autobiographique, mais néanmoins ils sont également des textes qui ne sont pas, qui n'ont pas une ambition exclusivement autobiographique ou documentaire, quoi. J'ai vraiment l'idée que l'écriture permet de raconter le réel d'une certaine manière, et donc bon, de le donner à voir, de le réenchanter parfois. Bon, donc je pense que dans ce premier livre, dans Atome d'or, ouais, il y avait quelque chose de, en fait, qui dépend aussi de mon parcours. Moi, j'ai écrit beaucoup de, j'ai lu et j'ai écrit pendant pas mal d'années avant d'être publié. Voilà, des textes qui étaient des textes de poésie, qui étaient des textes de poésie, qui étaient des recueils de poèmes que j'essayais de publier. Et donc j'avais un petit peu cette écriture-là qui était davantage marquée quand même par un tropisme vers la poésie. Donc quand je me suis mis à écrire effectivement ce roman, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ce serait pas intéressant? Je me reconnaissais pas tellement dans certaines formes narratives plus classiques, plus académiques, et je voyais qu'émergeait, émergeait, et d'ailleurs ça a continué, hein, émergeait des formes, voilà, peut-être plus, enfin des formes différentes de narration, parfois plus poétiques, même s'il faudrait définir ce qu'il y a dans ce terme-là, mais en tout cas des formes effectivement où dimension poétique ou musicale ou esthétique ou une manière de mettre de travailler la langue et la dimension formelle au service de, voilà, de l'histoire était présente. Donc c'est vrai que j'ai été un petit peu tenté de m'engouffrer à la suite de d'autres écrivains dans ce type de récit ou roman, finalement, peu importe, mais dans ce qui importait, c'était le travail. Là, je le disais presque dans un volonté d'analogie un petit peu, ou de recherche d'analogie, évidemment, imparfaite, avec la danse, c'est-à-dire avec le mouvement, avec une phrase qui serait toujours en mouvement, qui serait toujours dans une forme voilà, de langage qui incorporerait les sensations, donc un langage du corps, un langage et de faire entendre un petit peu cette émotion-là qui est propre à la danse à l'intérieur du langage littéraire. Donc c'était évidemment un travail qui était un travail très 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 enfin passionnant quoi, enfin en tout cas un essai, une tentative de redonner à la langue, enfin de redonner au roman en particulier une forme poétique et une forme qui s'inspirerait ou qui entretiendrait un dialogue avec ce que peut être la danse. Mais alors après, évidemment, l'histoire. Après, elle est à lire au premier degré aussi, effectivement, une histoire d'amour, une histoire de perte. Donc, bon, là, c'est une lecture un petit peu théorique qu'on essaye de faire. Je ne l'avais pas forcément quand je l'ai écrit, ça, tout ça est quand même assez intuitif, hein. Mais je crois qu'effectivement, l'émotion de la perte est au centre du livre. Et donc, c'est une manière, effectivement, d'écrire, peut-être pour conjurer, pour. Comme beaucoup l'ont fait avant moi, l'idée de, voilà, on écrit pour conjurer, pour garder trace, pour garder mémoire. Je pense que le thème de la mémoire fait le lien entre beaucoup de mes livres. Donc là, c'est la mémoire amoureuse, c'est une mémoire amoureuse, une mémoire affective. Donc on écrit pour garder trace. Je pense que c'est quelque chose qui est assez spontané, assez premier et que beaucoup de gens peuvent ressentir quand ils ont envie d'écrire en garde trace des choses les plus précieuses, des êtres les plus précieux, ou des émotions qui ont été précieuses, de paysages, que sais-je. On a quand même cette idée d'écrire pour garder mémoire, pour garder trace. Donc garder trace de cette histoire d'amour, garder trace de cette émotion-là, y compris l'émotion du deuil, l'émotion suscité par le manque, par le chagrin, par l'absence. Mais ça a été vraiment voilà, un livre qui effectivement cherche à faire danser la tristesse. Mais ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans justement dans la démarche voilà, dans la démarche poétique ou même artistique en général, quoi. Si on s'installe à l'intérieur d'une plainte, une douleur dans cette veine-là, et puis on en fait quelque chose qui va être effectivement quelque chose de beau, qui va toucher d'autres personnes. Donc, hein, il y a quelque chose d'assez ancré dans dans une tradition littéraire aussi, hein. Je me souviens, j'avais lu pas mal de livres sur le deuil. Et c'est très difficile. Comment est-ce qu'on écrit la perte de quelqu'un? Donc, ça, c'était la question qui a présidé au livre, quoi. Et finalement, je pense que, voilà, je dirais, c'est plutôt ça, en fait, le point de départ de mes livres, c'est une émotion. Après qu'ils aient une assise pour certains, qui soit un peu plus autobiographique, d'autres fois non. C'est pas du tout une mauvaise question. Ça, c'est pas une question inintéressante, mais c'est pas quelque chose qui, va être, décisif dans le processus d'écriture, c'est pas quelque chose par rapport auquel je vais avoir envie de me situer immédiatement d'emblée. J'ai l'impression d'écrire des romans, quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression d'écrire des romans avec une forme, effectivement, souvent sans que ce soit programmé là aussi, mais j'ai le sentiment aussi on se voit à travers les yeux des lecteurs aussi une forme de fantaisie, de poésie ou de joie ou de. Et ça, c'est quelque chose qui finalement traverse l'expérience vécue. Donc, elle peut être présente, cette émotion, si on s'inspire d'une expérience vécue, mais elle va être aussi, je dirais, amenée par le travail de fiction, de fictionnalisation, d'imagination, de réinvention. Je crois que c'est quand même là où se situe la force de la littérature, enfin, celle que, en tout cas, j'aime beaucoup, c'est la manière de la littérature à de réinventer. Le réel, parfois pour mieux le redonner à voir, hein, pour mieux le restituer, enfin en tout cas, ce pouvoir comme ça de réenchanter le monde, pour le dire un petit peu simplement, mais j'aime bien cette idée que ouais, la littérature réenchante aussi un petit peu le réel. Donc voilà, c'est une manière de, en tout cas, de raconter des histoires que je crois est la mienne. Et puis du coup, c'est vrai que c'était un livre important pour moi. C'est le premier livre, c'est celui qui nous lance, c'est celui qui nous fait connaître auprès des lecteurs. Et effectivement, c'est un livre qui néanmoins reste dans son intrigue, en tout cas, pas forcément dans le ton ou dans les pages, parce qu'il y a aussi beaucoup, je crois, de vie, d'humour, de joie, notamment dans la première partie qui raconte cette histoire d'amour. Mais il y a comme, c'est quand même aussi, comme tu l'as très bien vu, ressenti une histoire de deuil. Donc, c'est vrai que ça m'a amené le livre ensuite, qui était le livre d'après, le roman d'après, qui était Einstein, le sexe et moi, à chercher peut-être quelque chose qui soit plus humoristique, en tout cas dans la forme. Mais néanmoins, oui, c'est sûr que le premier roman, pour toutes ces raisons, c'est sans doute mon livre auquel je tiens le plus. Ça ne veut pas dire que c'est, si tant est qu'on puisse établir des critères objectifs, ça ne veut pas dire que c'est le plus réussi, mais c'est sans doute celui, ouais, auquel je tiens le plus, quoi. C'est vrai que c'est un premier roman, c'est toujours quelque chose d'extrêmement important pour un écrivaine ou un écrivain.
Lecture de la fin du premier chapitre. La première partie du livre s'appelle Orphée. On voudrait parfois que le temps cesse son bourdonnement, au moins juste pour un moment. On voudrait arrêter l'image, prendre le temps d'ouvrir grand les yeux. Que le temps s'arrête pour que l'on retienne un instant l'image du bonheur. Que cela pénètre la rétine jusqu'au fond de soi, jusqu'au fond des yeux, tout au fond du regard. Oui, mais voilà, nous ne possédons pas d'image du bonheur. Nous fuyons, nous passons et nous fuyons, ou alors nous vivons et nous fuyons, et c'est la même chose, et c'est très bien. J'éprouvais une douce ébriété autour de la petite table. LVHTN sortait des boîtes de jeux. THMTN et Barbara préparaient des feuilles, des stylos. Par je ne sais quel rapprochement d'idées, me vint à l'esprit une scène d'enfance, un grand salon dans une maison de banlieue avec des jeux de société posés sur la table, des rideaux de mousseline et un petit jardin où il y avait une odeur de noisettes et le parfum frais et entêtant des mûriers. Le temps blanchit les cheveux et met du salpêtre sur les murs. Le monde vient de naître. Il y a des arbres dont tu ne sais pas le nom. Tu es assis à califourchon sur la branche d'un grand arbre et tu regardes bouger les feuilles et les frondaisons et tu rêves de vivre. Et nous nous réveillons et déjà tu es vieux. La vie a passé sans un bruit sur ces cheveux hauts de songe. Il y a un grand bruissement de tremble dans la lumière. Ton père te prend dans ses bras. Tu ne sais pas encore parler. Le soleil de juin est indicible. On était ensemble. On partageait un verre de vin. On était une poignée d'amis fidèles. J'éprouvais un sentiment de contentement à la fuite du temps qui est peut-être la plus juste appréhension et la plus juste convoitise du réel. Pour la première fois, je n'avais pas envie de le retenir, juste de laisser filer les heures entre mes doigts, tout doucement. Et alors j'ai pensé que le bonheur, personne ne peut en forcer la porte, le trouver artificiellement. Il ne s'ouvre pas de l'extérieur, le bonheur. Il est malin. Il est beaucoup plus malin. Mille fois plus malin que vous. Il est fermé à clé depuis l'intérieur, et personne n'a la clé. Le bonheur ne s'ouvre que de l'intérieur. On ne peut que rester à la porte et dire des choses très douces afin de l'amadouer, de le faire changer d'avis. Et moi, j'avais attendu si longtemps en silence. J'avais chuchoté et supplié tant d'années à la porte. Alors j'ai pensé très fort au bonheur, et je me suis dit que ce serait bien s'il se passait quelque chose, justement, si la porte s'ouvrait. Et au moment précis où j'ai pensé ça, quelqu'un a sonné à la porte. Je suis allée ouvrir. Et c'était toi. Oui. Sauf que ça ne s'est pas tout à fait passé comme je le raconte. C'était la rencontre avec Danse d'Atome d'Or d'Olivier Liron.